Hélène Dorion naît en 1958 à Québec. Elle étudie la philosophie et la littérature. Sa poésie, marquée par une sensibilité féminine et lyrique, tisse des liens avec d'autres arts, musique, dessin, gravure, photographie. Entre 1984 et 2009, Hélène Dorion habite les Laurentides, au nord de Montréal, une région de vastes forêts. Elle rédige « Mes forêts » pendant la crise sanitaire du Covid déclarée en 2020. Le confinement interroge toutes les activités humaines, leur impact sur la santé, la nature, le bonheur. Je vous propose de découvrir avec moi ce recueil fascinant. Je vais vous accompagner à travers la lecture pour vous donner des clés d'interprétation. Bien sûr, pour un tel recueil, le sens reste ouvert. Les interprétations peuvent être variées. Je vais donc m'efforcer de suivre les indices que Hélène Dorion donne elle-même à travers ses interviews et ses interventions. Nous allons en particulier voir à quel point cette poésie qui relève de l'intime dès le premier mot du titre « Mes forêts », pronom possessif de première personne, implique finalement le lecteur dans une grande aventure collective. Et pour ceux qui sont dans la confidence, rendez-vous sur mon site Mediaclass pour retrouver les œuvres littéraires les plus étudiées, avec des explications linéaires et les dissertations les plus probables, en vidéo, podcast, documents rédigés et fiches téléchargeables. Et si vous décidez de soutenir ce projet culturel si spécial, vous accéderez à toute ma bibliothèque pour le prix d'un livre de poche. Poème inaugural. Le premier poème, qui n'a pas de titre et qu'on peut aussi appeler poème liminaire, installe un refrain qui reviendra tout au long du poème. Mes forêts sont. Dans ce refrain, on retrouve les mots du titre, le pronom possessif, mais aussitôt, le verbe d'état au présent de vérité générale, la dimension personnelle, prend tout de suite une dimension universelle. Voilà comment le recueil commence. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent. Ces vers nous annoncent déjà toute une aventure poétique, car contempler ces forêts révèle les dangers de l'avenir, pratiquement apocalyptique puisque le ciel est déchiré et que les étoiles tombent. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont des mâts de voyages immobiles. C'est très intrigant, le ton devient fantastique. Quels sont ces fantômes qui habitent les forêts? Allons-nous les faire revenir par notre lecture? En tout cas, cette image de forêt verticale nous laisse déjà deviner quels seront un lien entre passé fantomatique et avenir catastrophique. L'image des navires qui effectuent un voyage immobile est aussi particulièrement envoûtante. Est-ce que vous percevez à quel point la poésie est déjà une invitation au voyage? Elle nous implique émotionnellement et pour ainsi dire, politiquement. C'est exactement ce que vient répéter le refrain. Mes forêts sont des espoirs debout. Ce mot « debout », voilà la littérature engagée. Ce premier poème est donc déjà tout un programme, où l'on perçoit une exigence très élevée dans le dernier vers. Mes forêts sont des nuits très hautes. Dans ce recueil, notre parcours se déroule en quatre sections qui semblent raconter une histoire. À chaque fois, le refrain revient « Mes forêts sont » en tête de chaque section et nous révèle l'évolution de notre aventure tout au long du recueil. D'abord, l'écorce incertaine, situation initiale et le constat d'une certaine fragilité. Ensuite, une chute de galets, élément perturbateur, nous plonge dans un déséquilibre dangereux. Ensuite, l'onde du chaos, ce sont les péripéties qui nous promettent les rebondissements les plus périlleux. Enfin, le bruissement du temps est peut-être un dénouement, mais rien ne nous indique qu'il sera nécessairement heureux ou malheureux. Première section, l'écorce incertaine. Dehors, est-ce l'infini ou juste la nuit? Anne Lauterbach. Avec cette citation d'Anne Lauterbach, poétesse, essayiste, critique d'art, Hélène Dorion nous met devant un choix vertigineux. D'un côté, l'infini des possibles, la profondeur, la variété. De l'autre, juste la nuit, un néant inquiétant. Le premier geste de la poétesse sera de lever notre regard le plus loin possible vers l'horizon. L'horizon. De biais, la beauté vient chasser l'obscurité. Deux vers magiques. Les forêts, par leur beauté, nous donnent un horizon, un désir d'aller plus loin, de continuer. Elles nous font sortir du néant. Voilà pourquoi le poème se termine ainsi. Les forêts apprennent à vivre avec soi-même. L'arbre. Premier élément rencontré dans cette forêt. L'arbre est aussi en tête du poème. Il cache la forêt. Il est la première note de la symphonie poétique qu'on s'apprête à lire. J'écoute cette partition du temps, je déchiffre enfin le désordre des branches. La poétesse nous invite à déchiffrer l'énigme du poème, les symboles cachés dans ces forêts. Elle pense peut-être ici aux correspondances de Baudelaire. La nature est un temple où l'homme passe à travers des forêts de symboles. Le ruisseau. L'aspect musical se poursuit, mais de manière très nuancée, paradoxale. Écoutez. Comme un petit bruit au fond de l'âme, ce que l'on tait, les pierres le portent. La musique ne devient qu'un bruit, et encore, un bruit au fond de l'âme, intime, inaudible pour les autres. Et pourtant, inarrêtable. Ayant toujours l'horizon en vue avec cette rivière, nous poursuivons notre cheminement. Le rocher, le tronc, l'île. Je rassemble ici ces trois poèmes, car ils forment un moment de pause, une illusion de permanence et de solidité. Mais la fragilité reste présente. Les rochers sont une histoire couverte de rouille. Le tronc a de lentes cicatrices, et l'île flotte à la surface du jour. Le promeneur, en s'arrêtant un peu, en contemplant ce qui semble éternel, perçoit bientôt la fragilité du monde et la fragilité des espoirs qu'il porte en lui-même. Les rôles semblent s'inverser. Ce n'est plus le promeneur qui écoute la forêt, mais l'inverse. Les forêts entendent nos rêves et nos désenchantements. La branche, les feuilles, la déchirure. Ces trois poèmes vont ensemble, car ils guident notre regard tout en donnant un mouvement au poème. D'abord, les branches se régénèrent et évoquent les lignes d'un poème. Il n'y a que ce qui casse et repousse autour de nous, syllabes informes. Le poème suivant, les feuilles, nous guide vers un lieu plus éclairé, plus lumineux. On reste pourtant bien au cœur de la forêt, c'est-à-dire aussi au cœur de l'intime. On dirait bien que le chemin qu'on parcourt est toujours en même temps un chemin intérieur. Les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi. Elles creusent, elles nous amènent plus loin, plus profondément, dans l'introspection. Le poème « La déchirure » vient alors interrompre cette pause. Une lame cogne contre les mâts de nos rêves, casse la branche du temps. Ici, les troncs et les branches deviennent les mâts d'un navire dans la tempête. C'est vrai que la métaphore du voyage est toujours très présente dans ce recueil, depuis le premier poème. Le rêve devient souvent, dans ce recueil, un peu comme un désir d'avenir, prémonitoire, si on s'en saisit, mortifère, si on le laisse disparaître. L'écorce, l'humus, le mur de bois, la cime. On va voir que ces quatre poèmes sont des lieux rencontrés, des points de vue admirés, des bruits entendus pendant notre promenade. Mais à chaque fois, cela éveille en nous une prise de conscience. D'abord, nous arrivons probablement près d'un lieu de découpe, où l'écorce, attaquée par une scie, émet un son plaintif. Les forêts grincent, et ce gémissement secoue nos solitudes. Mais la destruction n'est pas irrémédiable, car l'humus est au contraire du côté de l'avenir possible, avec les hypothèses qui donnent de l'espoir malgré les saccages. S'il était la racine et s'il était du ciel devenu herbe. Alors on dirait que le mur de bois nous invite à surmonter les obstacles, à prendre conscience que nous sommes perchés sur l'épaule du présent. Cela fait penser à l'aphorisme des humanistes. Nous sommes des nains perchés sur les épaules de géants. Hélène Dorion va plus loin. De là, nous pouvons nous élancer. La cime, une falaise d'où s'élancer quand on refait les saisons. La bête, les racines. Comme un moment charnière dans cette section du recueil, ces deux poèmes se font face, je crois, pour une bonne raison. D'un côté, la bête, une pulsion sauvage et destructrice, qui se déchaîne sans se retourner. Un goût froid dans la gueule, nos questions d'enfants jamais réparées. Au contraire, les racines prennent en compte le passé et ont un rôle civilisateur et réparateur. Pareilles à une vaste cité de bois, les racines s'accordent à la sève qui les fouille. Le silence, l'ocre. Voilà deux nouvelles menaces. Le silence est celui des hommes de bonne volonté, ou celui de la résignation, de la dépression. La première personne apparaît justement pour nous laisser dans le doute. Je ne sais pas ce qui se tait en moi quand la forêt cesse de rêver. Le poème ocre s'inquiète des destructions de paysages que l'on trahit, ou encore de mémoires que l'on piétine. Le pronom indéfini, on, nous fait prendre conscience d'une responsabilité collective. Le houppier, les brèches. Le houppier, c'est la partie de l'arbre où les branches, maîtresses, donnent naissance aux rameaux secondaires. Dans le poème, cela dessine les jeux d'ombre et de lumière, des rayons qui passent à travers les brèches. Hélène Dorion pense peut-être au recueil de Victor Hugo, des rayons et des ombres. Avec ces contrastes, tout au long du recueil, l'espoir se mêle à beaucoup de fragilité. L'aube s'infiltre, tout touche l'écorce blessée. Le temps, le sentier, le feu, les vents, un lit de mousse. À travers ces 6 poèmes, des créatures s'animent dans les bois, avec le jeu presque enfantin de « on dirait » qui revient plusieurs fois et qui fait du temps une allégorie particulièrement originale, dans un registre fantastique. Écoutez. On dirait une pluie de chimères venue accabler la terre. Puis, à travers le sentier, passe une ombre. Peut-être est-ce l'une de ces chimères incarnées. Entre les troncs, comme une large rayure, le hibou s'élance. Ensuite, le feu et les vents sont des créatures ambivalentes. Le feu d'abord. On dirait une bête prête à tout dévorer. Le feu promet l'éclaircie, qui donnerait envie de grandir. Le conditionnel exprime bien cette ambivalence. Ce qui nous donne envie de grandir est aussi ce qui nous met en danger et pourrait nous dévorer. Lisons quelques vers des vents maintenant. La forêt disperse nos fatigues, masques et failles de nos illusions. Ces vents agissent et leur action est à la fois intime et collective, avec l'apparition de la première personne du pluriel. Ces promesses du feu, ces illusions dispersées par le vent, ont une valeur puisqu'elles nous poussent à grandir. Cette promenade était déjà un petit parcours initiatique qui nous a fait perdre des illusions pourtant nécessaires. Un lit. Un lit de mousse. On dirait une cité venue d'un autre univers. Clairement, notre regard a pris une certaine distance. Les fourmis sont l'image privilégiée pour décrire ce qu'on regarde de très haut. Un remous de fourmis sur la pierre pèse un poids de lettres et de mots inconnus. J'aime beaucoup cette image de fourmis qui porte les lettres d'un alphabet mystérieux. Le poème lui-même s'anime. Les chimères du temps se sont métamorphosées en mots qui se déplacent sous nos yeux et qu'on a envie de déchiffrer. L'aile. Le dernier poème de cette section évoque bien un désir d'élévation. L'aile très haute de la beauté perce le brouillard de vivre. Avec ce nouveau regard, conquis dans la contemplation des forêts, notre esprit est plus habile, peut-être comme dans le poème de Baudelaire « Élévation ». En tout cas, le parcours que nous avons suivi avec Dorion nous a fait traverser la nuit, mais cela soulève surtout de nouvelles questions. À l'intérieur du poème, la forêt rêve-t-elle alors que j'avance à petits pas de l'autre côté de la nuit ? Premier refrain, mes forêts sont un chant silencieux. Juste avant la deuxième section, le refrain revient et rappelle le caractère cyclique du temps que les arbres portent en eux. Ce parcours personnel prend alors une dimension symbolique, universelle et intemporelle. Mes forêts sont un chant silencieux de naissance et de mort, la mémoire de saisons qui se lèvent et retombent. Deuxième section, une chute de galets. Où aller sans commencement et peut-être sans fin ? Sylvia Baron, Supervielle. La première citation était déjà une interrogation. Ici, on retrouve la question, mais le point d'interrogation a disparu. Peut-être que cela évoque une certaine inquiétude. Sylvia Baron, Supervielle, écrivaine et traductrice argentine d'expression française, cousine du poète Jules Supervielle, écrit des romans et de la poésie. Elle développe notamment une esthétique liée au silence dans la nature. En tout cas, on dirait bien que cette section est un moment de rupture, un élément perturbateur qui va provoquer des ondes de choc, une chute de galets. Ces galets, au pluriel, viennent troubler une eau calme. D'abord, le poème nous invite à écouter avec un refrain qui revient régulièrement. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps. Cet écoulement du temps, sonore, naturel, on pourrait même dire éternel, s'oppose bientôt au vacarme d'un monde moderne artificiel. Au coin des villes, sirènes, klaxonnent, alarmes du siècle, amas de choses jetables et tintamarre de nos pas. Ces alarmes, au pluriel, qui s'accumulent avec les déchets, sont à la fois matérielles, sonores et immatérielles, des émotions négatives. Ce qui menace les forêts menace aussi notre équilibre intérieur. Ce vacarme nous empêche d'être à l'écoute de ce que la poétesse appelle l'écho de nos rêves, choses muettes et nues que ton chant accorde pour éclairer le néant. Ici, le néant, bruyant et sombre, s'oppose aux rêves, qui sont un peu comme le chant lumineux, silencieux des forêts, qui sont humbles, muettes et nues. Deuxième refrain, mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit. Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit pour lécher le sang de leurs rêves, boire l'offrande et se glisser dans un lit rempli de lucioles. Ce jeu d'opposition est développé à travers ce refrain entêtant, mes forêts, répétées, célébrées par Dorion. Elles sont blessées, aspirent à l'ombre de la nuit, mais pour mieux se réfugier auprès de la lumière des lucioles, des vers luisants, c'est-à-dire de syllabes lumineuses. Mes forêts sont une planète silencieuse. Elles sont un dessin de nature morte, ignorant les écrans sur lesquels on les regarde, sans jamais les voir. La nature morte évoque bien la vanité, représentation artistique qui nous fait prendre conscience de l'écoulement du temps. Par leur beauté, les forêts nous font éprouver ce passage du temps qui le rend si précieux. Et tout cela s'oppose au monde moderne, aux technologies, les écrans, qui nous coupent de la réalité, de l'authenticité. Mes forêts sont chemin de chair et marais de l'esprit. Un verbe qui se conjugue lentement, loin des Facebook, Instagram, Twitter. Ici, les forêts deviennent même un verbe, c'est-à-dire un mot qui représente un acte, qui pousse à agir. Ces forêts sont une poésie créatrice, l'exact opposé des écrans et des réseaux sociaux. D'ailleurs, avec ce mot valise, Facebook, Instagram, Twitter, qui agglomère les réseaux sociaux comme une seule entité malfaisante, apparaît une valeur intéressante, l'adverbe « lentement ». Je crois que c'est une clé pour comprendre cette deuxième section, plus courte que les autres. La chute des galets s'est produite à toute vitesse. Elle nous entraîne dans une course superficielle et effrénée. L'onde de choc sera, elle, plus longue à absorber. Troisième section, l'onde du chaos. Aux aguets, nous faisons écho aux rumeurs de l'abîme. Kathleen Raine. Kathleen Raine est une poétesse britannique, spécialiste de William Blake. Elle a beaucoup écrit sur la pensée platonicienne. Notre monde réel est le reflet d'un monde plus abstrait, celui des idées. Cette citation nous positionne sur le bord de l'abîme. Nos rêves d'avenir sont menacés par des rumeurs. Mais nous sommes aux aguets, c'est-à-dire alertes. Les majuscules rythment cette partie. Chaque phrase est un poème, et on peut l'imaginer, une onde de choc. Cette section est en plus structurée en six temps, qui commencent par des tournures impersonnelles, et qui suivent une logique de gradation vers le pire. D'abord un simple souffle. Il souffle mille voix de vent. Mais ce vent s'intensifie. Il fait un temps de bourrasque. L'orage éclate. Il fait un temps de foudre. Ensuite, la métaphore météorologique prend une autre ampleur, désigne le monde moderne, sa confusion, les dangers des technologies. Il fait un temps d'insectes affairés. Puis, il fait tache de brouillard. Et enfin, il fait rage virale sur nos écrans. Il souffle mille voix de vent. Il souffle mille voix de vent sur la montagne, au-dessus du vide. Flotte un ciel qui n'ignore pas sa fragilité. On commence à comprendre que ces poèmes sont une grande métaphore in absentia, c'est-à-dire que nous avons le comparant, mais pas le comparé. Que représentent ces mille voix de vent? Bruyantes, du côté du néant, du côté des alarmes, elles menacent la fragilité du ciel. Et en effet, le poème se poursuit avec une allusion au dérèglement climatique. Le temps ne va plus ni ne vient dans le mystère obstiné d'étoiles. Il n'y a que des saisons décousues. Le temps, c'est un mot polysémique. Il a plusieurs sens. Il y a le temps qui passe et le temps qu'il fait. Chez Dorian, les deux se mêlent sans cesse. Les saisons décousues défont nos repères temporels. Le grand tissu du temps est déchiré. Nos corps, plus chancelants que la terre, ne reconnaissent plus la mémoire d'un arbre. Le dérèglement, la perte de repères se généralise, elle frappe nos corps et nos esprits. Dans cette belle expression, la mémoire d'un arbre, se trouve l'image évocatrice des cernes qui portent en effet les traces de tout ce que l'arbre a vécu, la dendrochronologie, et qui évoque bien aussi l'onde de choc du titre de la section. On ne pourra pas toujours ne pas recommencer, on ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers. Le futur prophétique et la négation sont particulièrement frappants. Nous avons survécu aux hivers rudes, aux destructions, aux extinctions d'espèces. Mais cela ne doit pas nous laisser croire que nous serons toujours épargnés. Le jeune érable frémit. Grandir, disait-il, ne suffit pas à remplir le cœur. Ce jeune érable personnifié est déjà d'une grande sagesse. Il souligne la différence entre la croissance, grandir pour grandir, la démesure mortifère, et ce qui nous élève, ce qui nous fait grandir, le cœur. Il fait un temps de bourrasque. Il fait un temps de bourrasque et de cicatrices, un temps de séisme et de chute. La métaphore météorologique va de plus en plus loin. Les bourrasques des voies du vent abîment tout. Les corps qui ont des cicatrices, les continents qui subissent des séismes, les empires et les civilisations sont menacés par la décadence et la chute. Il fait un temps de verre éclaté, d'écrans morts, de nord perdu, un temps de pourquoi, de comment. Le raccourci est impressionnant. Le décor devient post-apocalyptique avec les écrans éclatés. Le monde, sans repère, devient comme une déchetterie à ciel ouvert. Dans ce temps de bile et d'éboulis, les forêts tremblent sous nos pas, la nuit approche. Les allitérations viennent renforcer une image incroyable. La bile, nécessaire à la digestion, qui dissout la nourriture et qu'on croyait responsable, avant la médecine moderne, de la mélancolie, se trouve associée aux éboulis, à l'effondrement d'un pan de montagne. Nos émotions, qui impactent notre corps, traduisent aussi le mal-être d'une société qui porte atteinte au monde, à l'univers. Ces différents niveaux de lecture cohabitent sans cesse. Entre mes doigts, le nom de l'arbre se transforme en rêve. C'est beau, n'est-ce pas? Ou en ruine qui nous dévore. Peut-être on a tout raté. Les tirés longs semblent instaurer un dialogue. Ce sont peut-être les fameuses voix du vent qui prennent la parole. Une question se pose. L'art et la poésie, à travers la beauté du nom de l'arbre, saura-t-elle nous préserver des ruines qui nous engloutissent? L'absence de ponctuation laisse en suspens l'assertion ou l'interrogation. On a tout raté. Du portable au jetable, le jardin où périt un monde où l'on voudrait vivre, l'abîme évide l'espérance que l'on ne peut nommer. Ce deuxième temps se termine donc sur cette évocation d'une grande décharge de débris, de technologies diverses. Les exigences du consommateur qui veut du portable et celles du producteur qui programme du jetable rendent finalement notre monde invivable. Il fait un temps de foudre. Il fait un temps de foudre et de lambeaux, d'arbres abattus au-dedans de soi. Cette image de la foudre mobilise tout de suite des imaginaires très variés. Le corps foudroyé, l'arbre foudroyé, incendié, prend une dimension intime, morale, au-dedans de soi. Chaque orage affaiblit un peu plus nos espoirs et notre volonté. Guerre, famine, triste dureté, sur l'écran d'aujourd'hui, s'annoncent les orages de demain. Les écrans nous montrent les catastrophes, mais ils ne nous mobilisent pas. Au contraire, ils banalisent, voire même ils prophétisent les catastrophes à venir. Ils sont exactement l'inverse de ce que la poétesse fait avec ses mots. D'ailleurs, la première personne réapparaît ici. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. On retrouve la lenteur, le temps long, associé à une étreinte. L'affection, le lien à l'autre, cela prend du temps. Les témoignages des écrans et de l'actualité ne nous laissent pas le temps de l'empathie. Seul celui qui tremble est capable d'émotion, d'empathie, de comprendre l'autre. Voilà pourquoi il n'y a rien à attendre de ce qui ne tremble pas. Et voilà pourquoi ce troisième temps se termine avec une adresse à la deuxième personne. Tu t'arrêtes pour que traversent à l'embranchement les chagrins jamais avoués. Pour comprendre ces chagrins, pour les partager, il est nécessaire de s'arrêter et de dialoguer, créer un embranchement où se croisent les deux personnes, le je et le tu. Il fait un temps d'insectes affairés. Il fait un temps d'insectes affairés, de chiffres et de lettres qui s'emmêlent sur la terre souillée. Ce quatrième temps pose notre regard sur la fourmilière. On comprend maintenant que c'est l'activité humaine qui est décrite. Les chiffres et les lettres souillent la terre, c'est-à-dire qu'ils nous séparent au lieu de nous lier. Il fait refus et rejet, un temps de pixels, d'algorithmes, il fait chimère et rêve de rien du tout. Les activités humaines s'éloignent de la poésie en se faisant algorithmes. Elles mettent tout dans de petites cases, les pixels. Elles produisent des chimères qui s'opposent exactement aux rêves, car contrairement à eux, elles ne mènent à rien du tout. On peut penser à l'expression populaire positive « suis tes rêves » et négative « suivre des chimères ». L'arbre n'échappe pas à sa souffrance. De l'anneau des années, il ignore tout. Ses refus, ses rejets, ses blessures nous marquent exactement comme les anneaux, les cernes des arbres. La paronomase est significative. Chaque année est un anneau. Le temps qui passe dessine des stries. L'image est alors filée par la poétesse. La neige striée de sentiers boit l'encre de chaque mot. J'attends un geste de lumière posé sur l'énigme fragile. Ces quelques vers parlent du pouvoir de la poésie, encre de chaque mot, qui transforme nos blessures, nos cicatrices, en geste de lumière. Et ce geste crée un lien avec l'autre, partage des convictions. Nous sommes debout comme après la pluie. Autour de nous, les lucioles vacillent dans un théâtre d'heures. Cette belle image d'un geste de lumière et de lettres et de mots qui sont comme des insectes se poursuit avec cette image des lucioles qui sont comme de petites flammes qui vacillent. Elle s'oppose bien aux insectes affairés du début de ce quatrième temps. L'évocation du théâtre est intéressante aussi parce que elle implique le lecteur en tant que spectateur de ces gestes. Il fait tache de brouillard. Il fait tache de brouillard et mince certitude à la porte de l'histoire. ce cinquième temps va nous livrer des doutes, mais aussi tenter de les surmonter. Ni obscurité ni lumière, le brouillard voile les certitudes. Il les nuance. La poésie elle-même est fragile, difficile d'accès, mystérieuse. Dans la cohue des paroles, il fait un temps que le cœur ne déchiffre plus. Le temps qu'il fait aujourd'hui, on le comprend maintenant, c'est tout le contexte politique, social, culturel. Tout cela ne nous rend guère aptes à comprendre, à déchiffrer la poésie. On peut penser au vers de Rimbaud dans Soleil et Cher. Maintenant l'homme dit « je sais les choses » et va les yeux fermés et les oreilles closes. En tout cas, dans notre recueil, un défi se dessine. Comment apprendre à déchiffrer les signes? Pas seulement la poésie, notre passé, notre destin, qui est pour ainsi dire dessiné dans nos mains, c'est-à-dire métaphoriquement dans nos actes. Ce sera comme un souvenir qui s'ouvre, ce sera une main avec de longues lignes enchevêtrées, la langue de nos destins impossible à lire. La main porte donc en soi l'avenir. La poésie devient alors performative, les mots sont comme des actes. La feuille est alors un peu comme la main de l'arbre qui crée de nouvelles choses, un bourgeon, une fleur, un fruit. Toute feuille est un désir de fleurs et de fruits. Avec lui, le monde surgit. Cette section, L'onde du chaos, nous transporte donc entre espoir et doute, présente un certain optimisme sans cesse fragilisé. Et ce parcours nous confronte à des problèmes de plus en plus périlleux. Nous abordons alors le sixième temps. Il fait rage virale. Il fait rage virale sur nos écrans, qui jamais ne dorment, propage des mots comme un venin. Ces quelques vers, écrits pendant la crise sanitaire du Covid, remotivent la métaphore qui rapproche la biologie de l'informatique. Confinés, d'autres virus nous guettent, ceux qui s'installent sur nos disques durs, ou encore les injonctions implicites que les réseaux sociaux implémentent dans nos cerveaux. Une solution s'offre à nous, éteindre les écrans. L'écran s'est verrouillé, le champ d'étoiles est devenu noir, on ferme tout ce que l'on veut réparer. Hélène Dorion évoque une nécessaire déconnexion ici. Fermer les applications pour mieux nous réparer. Éteindre les écrans pour nous tourner vers d'autres lumières. De nouvelles images émergent alors. S'arrêter, c'est jeter l'encre, mais c'est aussi créer de nouveaux liens. L'arbre jette l'encre dans le jardin de tes pas. Il tend les cordes de l'univers où les âmes jamais ne fanent. Préserver son âme comme une fleur qui ne doit pas faner. C'est cultiver un jardin, où l'arbre est un repère, comme une ancre qui stabilise le navire. De nombreuses images ici s'entrecroisent, mais elles ont déjà toutes été évoquées, elles deviennent particulièrement esthétiques. La poésie est une forme d'art parmi d'autres, participant à une véritable symphonie qui n'a d'autre but que la beauté. Arbre de grâce et de beauté, arbre de solitude et de questions, les branches qu'il recueille s'inclinent comme des archets. Après l'image des mains et des feuilles, celle des branches et des archets. Mais au fond, le message est le même. L'art, sous toutes ses formes, peut créer un havre de paix, un moment de silence et d'introspection où le temps s'arrête. La neige a cessé de fondre, les rues se sont tues, le siècle s'arrête comme un navire, surpris par la marée. Ce moment où, grâce à l'art, la beauté, l'introspection, on parvient à arrêter la course du siècle, n'arrête pas les marées. Au contraire, elle nourrit nos véritables aspirations, nos véritables rêves. Elle nous agrandit intérieurement, elle nous élève. Ta maison devient plus vaste qu'un commencement. Tu pousses la porte du temps, le sang du souvenir qui a survécu. Cette troisième section poursuit notre quête initiatique. Nous sommes prêts maintenant à nous ressaisir de notre histoire. Mes forêts prennent bien ce sens, une histoire qu'il faudrait tenir en restant debout à bout de bras. Commence alors le troisième refrain qui clôt cette troisième section. Troisième refrain. Mes forêts sont le bois usé d'une histoire. Mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras. Les lunes représentent bien une mesure temporelle, une histoire nocturne, peut-être la face cachée d'une histoire officielle, une histoire qu'il faudrait tenir à bout de bras, usée par le temps, mais qui tient bon. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une histoire plutôt féminine, liée au symbole de la lune. En tout cas, on va vite découvrir que cette histoire utilise justement un langage poétique. Langue de tous les jours, humiliée, résistante, conquise, invaincue, mes forêts parlent la langue des rivières qui débordent. On retrouve cette idée que les rêves sont des marées qui débordent en nous, un mouvement naturel qui s'oppose à tout ce qui est mortifère. Mes forêts racontent une histoire qui sauve et qui détruit, sauve et détruit. Ces vers empruntent les mots du poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Ils décrivent une dynamique qui se trouverait dans l'univers. Chaque catastrophe contiendrait en elle les germes d'un monde nouveau. L'astrophysicien et écologiste Hubert Reeves, décédé en 2023, a utilisé ce vers pour le titre d'un de ses ouvrages. Face à la crise écologique à laquelle nous faisons face, à nous de découvrir les outils qui existent déjà et qui sont à notre disposition. À nous de les utiliser à bon escient. À nous de tendre l'oreille pour déceler les signaux faibles qui nous apportent des réponses sous le bruissement du temps. Quatrième section, le bruissement du temps. Où avons-nous été et pourquoi descendons-nous? Annie Dillard. Cette citation est encore une question et une citation féminine. Annie Dillard est une autrice américaine contemporaine qui a notamment étudié et développé la pensée de Thoreau, philosophe américain à l'origine du concept de désobéissance civile. Le chemin que nous empruntons descend encore, et à vrai dire, il remonte le temps jusqu'au commencement et nous propose une nouvelle histoire, peut-être une contre-histoire. C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. Avant l'aube. Dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu ni humain. C'est une véritable genèse, mais alternative, pas celle de la Bible, ni celle des mythologies polythéistes, ni Dieu ni humain. Ce n'est donc pas non plus celle des hommes. Cette origine est remplacée par la forêt du temps. La forêt présente un foisonnement qui n'est justement pas celui du chaos, mais bien un principe générateur de vie et de poésie. Sont venus les dieux qui flottent au-dessus des eaux. Hésiode, Zeus, Odin, Brahma, Izanami. Avec eux sont venus l'air et la lumière. Donc les dieux ne sont venus qu'après. Ce qui est intéressant dans cette courte liste, c'est qu'elle mêle des divinités masculines et féminines, de culture occidentale et orientale. Izanami est une déesse de la création et de la mort dans la mythologie japonaise. Hésiode n'est pas un dieu, mais un poète qui a écrit la Théogonie, l'origine des dieux. Hélène Dorion donne à la poésie un rôle primordial et la fait participer à un véritable syncrétisme, un mélange de mythologie. On a commencé la longue marche du mythe à la connaissance. Galilée, Giordano Bruno, Einstein, la cause et l'effet rompus. Et l'on a donné vie à cette chose appelée « réalité ». Cette deuxième série de noms décrit une nouvelle étape dans la représentation que l'homme se fait du monde. Galilée et Giordano Bruno ont été poursuivis par l'Église pour avoir démontré la théorie héliocentrique de Copernic, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Einstein, quant à lui, a démontré que l'espace et le temps sont indissociables. Cette histoire en raccourci nous a amené du commencement à l'aube, d'où nous apercevons au loin un horizon, le poème suivant. Avant l'horizon. La terre a commencé à recueillir nos histoires, dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues, parmi les fissures des pierres. La terre est personnifiée, archéologue ou artiste. Elle a recueilli ou sculpté les traces de notre passé fossilisé dans l'humus. Ce sont presque des œuvres d'art, et cela se confirme dans la citation suivante. Puis nos mains ont dessiné quelques traits sur les murs d'une grotte. L'art allait nous protéger de la haine, mais la haine a continué. Cela donne une idée du fameux horizon poursuivi par la poétesse dans ce recueil. On se souvient que le premier poème s'appelait « Horizon », justement parce que la beauté pouvait nous tirer de la menace du néant. Mais dans un premier temps, le constat est amer. On a balayé leur rituel, enseigné notre Dieu, chassant avec lui l'esprit de la lune et du soleil. On a souillé notre maison, on l'a vendu au plus offrant. Ce pronom indéfini « on » dénonce la volonté colonisatrice de l'Occident, qui se poursuit à travers la marchandisation du monde, oubliant la véritable valeur impossible à mesurer du monde. Le monde qu'elle appelle « notre maison ». Mais face à cette souillure, le geste poétique, artistique, se poursuit jusque dans notre recueil qui participe justement à cette résistance. Puis la main se met à écrire, invente des forêts imaginaires, et des visages s'y promènent. L'horizon est apparu, le monde aurait une histoire. Les visages, ce sont peut-être les nôtres, ceux des lecteurs qui arpentent les forêts imaginaires du recueil. L'œuvre individuelle de la poétesse implique chacun, chaque lecture est une nouvelle création. Voilà pourquoi cette section nous invite à revenir au premier poème du recueil. À moitié debout, à moitié à genoux, l'histoire retourne d'où elle vient. Le recueil pourrait se terminer ici, mais il se poursuit pourtant avec un dernier poème qui a des accents autobiographiques, un peu comme une postface où la poétesse aurait mis son propre parcours, avant la fin, avant la nuit. Avant la nuit. Le plus grand a croisé le plus petit, et d'autres histoires ont commencé. Sont venues la maternité, la rue Summerside, le jouet d'enfant, le premier jour d'école. Que signifie ce premier vers, le plus grand a croisé le plus petit? Peut-être la rencontre de deux gamètes, ou bien la rencontre d'une grande et d'une petite histoire. La poétesse nous dit bien quel est le fruit de cette histoire. Mais alors que nous avions adopté un regard particulièrement distant sur l'univers, elle opère maintenant un zoom avant vertigineux. À l'enfance succède la période troublée de l'adolescence. Les trajets interminables, la vague qui me renverse, et la main de ma sœur qui me rattrape, la bouche du garçon sur ma bouche, le vertige de l'inconnu. La poétesse évoque ici, par flash, des souvenirs chargés en émotions, qui n'ont de sens que pour elle. Mais il suffit de ces quelques images pour que le lecteur comprenne qu'il n'est pas seul. Cette main tendue, celle de sa sœur, c'est aussi celle du poète Virgile qui guide Dante à travers les enfers. Dans la forêt de Dante, on voit le passé, déjà on lit le futur. Cette première expérience littéraire bouleversante en amène d'autres. Hélène Dorion multiplie les références. On traverse le bois de Walden, la mémoire des saisons de Zanzotto, les paysages intérieurs d'Hopkins, les carrières de Zambrano. La forêt imaginaire de notre recueil n'est donc pas la seule, elle côtoie d'autres forêts. Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau est le récit d'un séjour en forêt, véritable mythe d'un retour à la nature. Andrea Zanzotto, écrivain italien, a aussi beaucoup écrit sur la nature, les saisons, notamment sous forme de haïku. Gérard Manley Hopkins est un poète anglais inventeur de la notion d'inscape, paysage intérieur, qu'il associe au concept d'instress, la capacité à percevoir le paysage intérieur des autres. Maria Zambrano, philosophe espagnole, a écrit « Les clairières du bois », qui donne à la beauté un véritable horizon qui pousse l'homme à sortir de soi. En rendant hommage à ses auteurs et autrices de différentes nationalités, Hélène Dorion souligne l'intention commune de ses œuvres, celle de créer un chemin lumineux s'il n'existe pas. Un poème murmure un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu'on appelle humanité. Le refrain revient alors une quatrième fois pour ouvrir encore le sens que la poétesse donne à la poésie et à l'acte d'écriture. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Elles sont des aiguilles qui tournent à travers les saisons. Elles vont d'est en ouest jusqu'au sud et tout au nord. Ces aiguilles de pin, d'horloge, de boussole se confondent. Mais à travers toutes ces images, une même idée, un repère, quelque chose qui persiste, nous indiquant une direction dans l'espace ou le temps. Et bientôt, le parallèle est fait entre ces forêts, la poésie, mais aussi le dessin et la peinture. Au matin, elles sont des ratures et des repentirs, elles sont des lignes au crayon sur papier de temps. Le repentir en peinture, c'est une partie qui a été recouverte par un autre motif. Avec cette image, la poétesse donne encore une nouvelle profondeur à la poésie. Ce n'est pas tant le poème terminé qui a de la valeur que le processus d'écriture lui-même, qui nous amène à nous connaître. Mes forêts sont un long passage pour nos maux d'exil et de survie. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même.